Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondiblog Centre. www.bondiblogcentre.fr.
Bondiblog Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondi Block Centre, première saison, épisode 3, les slammers face à l'actu. Salut Al Pacina.
Bonjour et merci à nos trois invités, un archange, Zombie Tumor et T, slammer qu'on retrouve régulièrement à la Java Pop, d'être venus aujourd'hui pour, comme le disait Daniel, cette troisième émission des slammers face à l'actu. Alors, pour présenter un peu nos invités, nous garderons nos deux slammeurs, un archange et T, comme des slammeurs à la Java Pop, et d'ailleurs T qui est aussi en fac de lettres, en troisième année de licence, si je ne me trompe
pas.
C'est ça. Et puis Zombie Tumor, qui, je pense, nous pourrons revenir dessus pendant l'émission, anime actuellement des ateliers à l'ERTS autour du slam.
Oui.
Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps d'écouter le texte, pardon, de Un Archange.
Alors, ce texte s'intitule « La Sentinelle ». Lorsque je suis sorti de l'immeuble, la place était déserte. Normal à cette heure-là qu'il n'y ait pas un chat pour sentir la fraîcheur du matin, humide de rosée, juste avant que les rayons du soleil se mettent à l'arroser. Cette place est belle. Je l'aime. Alors, comme tous les matins depuis bien longtemps, je prends ma place et m'assois sur ce banc, juste en face de son appartement. La lumière est éteinte, elle va bientôt s'allumer, sa silhouette gracile va bientôt se distinguer. J'attends là cet instant, et voici ce moment. Lorsqu'elle se réveille, je suis à ses côtés, séparée seulement de quelques dizaines de mètres. Je la vois s'étirer à travers la fenêtre. Elle est là, je suis là, juste de l'autre côté. Je la sais maintenant réveillée. Nous allons prendre le petit déjeuner. La cuisine s'illumine, le café est lancé, le sucre, les tasses et les cuillères sont maintenant disposées. Une autre silhouette à la première fenêtre. Je vois qu'il se lève. Dans quelques instants, il déposera sûrement un baiser sur ses lèvres. Le café est coulé, j'ai mon thermos en main. Elle le serre et se serre. Je me sers de concert. Il la rejoint. J'imagine qu'il lui parle et qu'elle lui sourit. Et moi, bêtement, sur mon banc, je souris aussi. Le café est bon. Le boire est très agréable. J'attends qu'elle se prépare, puis je la vois sortir. Moi aussi, je me prépare. Nous allons bientôt partir. Lorsqu'elle sort de son immeuble, la place n'est plus déserte, mais est traversée de passants marchant d'un pas alerte. Nous marchons, ensemble, dans la même direction, séparés seulement de quelques dizaines de pas. Pour vous, je suis celui qui la suit, mais pour moi, je ne le suis pas. Je suis seulement celui qui marche avec elle d'un même pas. Au bout de la rue, un premier virage, je vois qu'elle s'allume d'âme au passage. Nous poursuivons notre chemin, traversons plusieurs rues pour arriver jusqu'à l'avenue où se situe le lieu de son travail. Je la vois entrer, rassurée de savoir que rien de fâcheux ne lui est arrivé. Je la rejoindrai tout à l'heure. Nous irons déjeuner, elle avec ses collègues, dans un restaurant, un de ses restaurants préférés. Moi un peu plus loin, sur un autre banc ou dans un café. Pour vous, je suis celui qui la suit, mais pour moi je ne le suis pas. C'est juste qu'elle a su tourner la page, mais que moi je n'y arrive pas. Alors, puisque pour moi l'amour est éternel, telle une sentinelle, sur elle, je veille.
Merci beaucoup, un archange, pour ce texte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a inspiré ce texte? Est-ce que c'est une histoire personnelle ou est-ce que tu n'as pas spécialement envie d'en parler peut-être?
Alors ce qui m'a inspiré ce texte, il y a toujours forcément des résonances personnelles. Mais c'est un agglomérat de plusieurs histoires, notamment d'histoires d'amour qui se sont mal finies. C'est rarement une décision partagée, une séparation. Souvent, l'un des deux reste sur le carreau, et c'est plus ou moins facile de s'y faire. Parfois, certains en vont jusqu'à commettre des actes violents envers leur ex-compagne ou compagnon, ou envers le nouveau compagnon de celle-ci. Enfin bref, c'est pas toujours facile. On peut facilement passer de l'amour à la haine. Donc j'ai imaginé comme ça quelqu'un qui serait à l'entre-deux, un espèce de fantôme qui voilà, serait toujours dans l'amour en dépit du fait qu'il est perdu. Voilà.
D'accord. Zombie Tumor, quelque chose à dire par rapport à ce texte, un ressenti?
Je l'avais déjà entendu et moi j'aime beaucoup ce texte. Je le trouve très poétique et une balade comme ça. J'ai apprécié de l'entendre à nouveau.
C'est vrai qu'on se laisse facilement emporter comme si on marchait en fait et qu'on suivait aussi cette femme un petit peu comme toi, l'auteur de ce texte. Et c'est vrai que c'est assez intéressant même dans l'écriture, la manière dont tu l'as fait. Franchement, bravo.
Merci.
Et du coup, on va poursuivre avec une petite phrase que nous dit souvent T.
Donc, c'est tout simplement mécanique, en fait. C'est sur l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est alphabétique. C'est-à-dire que dans l'alphabet, on a la lettre M et puis la lettre N. Et dans les sentiments, d'abord, on aime. Et puis, si on va un peu trop loin, on passe à la haine.
Merci beaucoup. Alors du coup, on va enchaîner avec le texte de Zombie Tumor sur le thème de la haine. Peut-être ouais. Une autre définition.
Ouais. Comme le chien qui bave sur sa laisse, comme le mouton qui tient le couteau dans sa gueule, comme le cygne qui chante pour la dernière fois, je me regarde tomber dans les rumeurs de guerre. Esclave, choisis ton maître. Va voter, avorter pour une enclave dorée. Va voter, avorter pour la traître adorée. Combien de mémoires mortes, déformées dans le miroir, où à l'ombre des miradors, les salauds qui se mirent et s'adorent, s'envoient des shoots de haine pure. Tous, nous sommes sous les bombes à fragmenter le sens, tous vitrifiés à coups de faux bon sens. De sens commun hérissé de clichés sanglants, de simplifications mortelles, de discriminations criminelles et de viols impunis. Les tenants du système brocardent le système. Ils se crachent dans la bouche, dansent sur les vieux volcans, slogans qu'ils ont embrasés. Pour respirer au-dessus des nuages, ils vendraient leur mère si nécessaire, mais il est plus simple de trouver un bouc émissaire à sacrifier. Jeunes, femmes, roms, juives, handicapés, gays, chômeurs, pauvres, montrer du doigt, désigné à la vindicte populaire, relayé au net par l'armée des trolls. Comme dans les animaux malades de la peste, tous sont d'accord pour simplifier, sacrifier, éradiquer. D'abord le langage, et puis l'autre, le plus faible, le plus pauvre. Comme dans les animaux malades de la peste, tous n'en mouraient pas, mais tous étaient touchés par le shoot de haine pure. On nous bombarde de symboles, de croix, de svatiska. On nous réduit à la plus simple expression, à la plus brutale émotion, qui nous enferme en nous-mêmes. On nous a imposé la sécurité contre la liberté. Simplifiés pour amplifier, porc gavé, grognant, à coups d'émoticônes, on fait de nous des émoticons, des chiens de Pavlov, qui érigent eux-mêmes les murs de leur prison et tissent la corde qui les pendra. Réduit à n'être qu'un signe sans signification, un uniforme vide, semblable aux semblables, signifié sans signifiant, bras de mannequin, de signalisation tendu, précipité, comme un shoot de haine pure. Et quand les tenants du Vograd auront décidé de sacrifier l'âne pelé, le cafard, la vermine, Charline, Rémi, Carla, Boris, Hassan, Yang, Lee ou Bob, dans la chaleur de ton foyer avant d'aller travailler, avant d'aller faire le job, tu repasseras l'infâme uniforme dans ses plis implacables et, tout comme les autres, tu porteras la mort en étendard parce que c'est permis et parce que c'est bon. Le barbare, c'est toujours l'autre. Les bourreaux ordinaires en tête se gondolent au rayon du maréchal putain. Promo sur les fusils, les machettes et les drones. Même toi, mon pote, un type chouette, tu te précipites et tu achètes. Du couteau de cuisine affûté au drôme affrété, qu'importe le poison. Pourvu que l'ivresse dure, le shoot de haine pure. Esclave, choisis ton maître. Esclave, choisis ton pieu. Qu'on te l'enfonce dans le cœur, qu'on te le fasse au carré à toute heure, que tu le deviennes en croyant mieux. Au nom du Père, au nom de la peur, esclave, choisis ton pieu, ton shoot de haine pure. Jusqu'à ce que l'hiver soit venu, quand la nuit était si noire et si froide que les étoiles étaient cousues sur le cœur des morts devenus par un shoot de haine pure.
Merci beaucoup pour ce texte assez poignant.
Oui, alors c'est vrai, la lettre M, on pense à AM comme amour. Là, ça serait amertume. L'amertume qu'on n'avait pas retrouvée dans le premier texte avec le goût du café. Il n'y avait pas d'amertume dans la sentinelle, il y avait beaucoup d'amour. Mmh. Et puis là, on passe à l'inverse, à la haine. Moi, j'aimerais juste, parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure de le dire, quand un archange a fait son slam, les auditeurs, les auditrices ne le voyaient pas, il avait les yeux fermés, il avait l'impression qu'il rêvait, qu'il nous parlait en rêvant. C'était beau. c'est pas mal, ça donnait du charme à la déclamation. Quoi. Bon, après, c'est de l'image. Hein. Il a pas choisi, j'imagine, je sais pas. Pourquoi les yeux fermés, d'ailleurs, c'est... Pour mieux se remémorer.
Me concentrer sur la voix.
Pour se concentrer, oui, mmh. D'accord. Parce que oui, t'as pas le texte sous les yeux,
non,
contrairement à Zombie tu mort, hein, qui s'est donné un shoot de haine pure.
Eh bien oui, mais je pouvais pas fermer les yeux parce que je suis trop paresseux pour apprendre les textes par cœur.
Oui, mais c'était un shoot de haine pure.
Ouais.
On n'a pas eu l'avis de T sur le slam de... Je vais y arriver, un archange.
Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui est une histoire racontée, quelque chose qui vous emmène, qui vous prend par la main et puis hop, il vous raconte son histoire et il vous emmène au gré de ses sentiments tout au long de l'histoire et il vous les partage sans aucune concession et ça c'est agréable. Voilà.
La sentinelle, c'est quoi une sentinelle en vrai? Une sentinelle, qu'est-ce qu'on appelle une sentinelle? C'est quelqu'un qui est dans sa guérite, non? Moi, je vois ça, c'est un soldat dans sa guérite,
qui
surveille.
C'est ça, le parallèle.
Pendant la guerre, quand même, non? Par exemple, ou une caserne?
Bien sûr. C'est pour ça que je parlais du parallèle entre l'amour et la haine, puisque quand on est quitté par l'autre, eh ben, on est ravagé par des sentiments extrêmement contradictoires. C'est pas forcément quelque chose d'universel. Il y a des gens qui ne vivent peut-être pas des sentiments de rancœur ou de haine, mais il y a des gens qui passent à l'acte. Donc voilà, cette sentinelle, elle est entre les deux. C'est quelqu'un qui veille, mais qui est prêt à tirer s'il le faut, qui est programmé pour tirer.
Relégué un peu à l'écart de la caserne aussi, dans sa guérite, tout seul. Il fait pas partie de la légion, enfin comment on appelle ça, du régiment. Il n'en fait plus partie. Il n'est plus sur le théâtre des opérations non plus.
C'est ça, il garde.
La scène, d'accord, ok. Et combien de temps il peut garder comme ça, à s'oublier?
C'est la question de l'amour. Est-ce que l'amour est éternel, éternellement?
Il y croit encore, il garde un œil dessus.
Mm-hmm. Je crois qu'il ne peut pas faire autrement. Tout simplement.
Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose par rapport au fait qu'on parle de violence. Je pense qu'il faut le rappeler, c'est important, un petit peu la minute prévention, comme on le fait souvent. Il faut rappeler que sur Orléans et dans le Loiret, il y a une association qui s'appelle AVL, Assistance aux victimes du Loiret. C'est tout type de victimes, ça peut être la violence, le harcèlement, femmes comme hommes. Et il ne faut surtout pas hésiter à s'orienter vers cette association. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai pu entendre parler d'eux et c'est une association qui est très compétente et qui est très à l'écoute des victimes. Il y a des écoutes psychologiques, des suivis psychologiques, mais il y a aussi une aide judiciaire pour les personnes qui n'osent pas ou portent faire un dépôt de plainte ou... qui peuvent accompagner les personnes dans leur démarche de dépôt de plainte. Donc voilà, je pensais que c'était important de le préciser.
L'écriture, c'est un moyen de se prémunir de la haine?
Non, l'écriture, c'est un moyen d'élaboration. Donc il y a des sentiments qui peuvent être bruts, au premier degré. Donc c'est intéressant de travailler dessus, pour leur donner une consistance différente, une existence différente. Mais on peut parler de sublimation, aller jusque-là.
Zombie tu mort, l'écriture, c'est un moyen de se prémunir de l'amour ?
Oula ! De se prémunir de l'amour,
c'est
je n'ai jamais envisagé.
De haine, ce shoot de haine.
Mais là, on n'est pas vraiment dans l'amour. Hein.
Ben justement, c'est ce que je dis.
Là, on est plus... pour moi, l'amour, la haine... bon, c'est un cliché hein, de dire que les deux sont liés, mais en tout cas, dans l'un comme dans l'autre, il y a une perte... Il y a une perte de soi, on tombe dans une espèce d'absolu. Hein. Et dans la haine, c'est vrai qu'on se rapproche, dans l'amour aussi parfois, mais de l'animalité. Et je pense qu'on a tous une, comme disait Thiéphaine, une nostalgie de la gadoue. Hein. Tellement plus simple de suivre au pas un symbole, quel qu'il soit, d'être tous unis par la haine sacrée, finalement. Voilà. Après, l'amour, bon, moi, l'amour, la haine, non. Non, je vais pas jusque-là. Voilà, ça paraît pas compatible.
Alors, il y a T qui est d'accord, hein, qui nous a fait la liaison entre l'amour et la haine.
Exactement, comme on peut faire la liaison entre deux extrêmes, quels qu'ils soient, comme le froid et le chaud, qui n'ont rien à voir, mais qu'on peut lier aisément par la température. Et l'amour et la haine, comme disait Zombie, c'est que, oui, c'est pas forcément compatible, mais effectivement, on a cet absolu d'un côté comme de l'autre, du côté de l'amour comme du côté de la haine, et dans les deux cas, on s'oriente vers un extrême dans lequel on se perd soi-même. Et je pense que c'est ça qui est important de regarder si on veut vraiment trouver un point commun entre l'amour et la haine. C'est pas de regarder la thématique de chacun des deux, c'est de regarder le mécanisme et le fonctionnement de chacun des deux qui, là, peut proposer quelques points communs comme cela.
Je sais pas, ça... c'est la sentinelle, je reviens à un archange, regarder le mécanisme, ça fait mal, regarder ce mécanisme depuis le banc.
Ben ouais.
De revoir cette cafetière tirer son jus, le thermos à la main, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce mécanisme ? C'est pareil, enfin, y a Laurent qui nous a expliqué toujours marcher peut-être vers... c'est facile de marcher ensemble vers la haine.
Oui, je comprends pas là, ce que tu
veux dire. Non, ce que je me demande, c'est... Il y a des mécanismes, en fait, l'amour, la haine, c'est mécanique.
Bah, par exemple, sur la sentinelle, rien qu'une petite chose toute bête, c'est qu'on a parlé de la sentinelle militaire. Mais on aurait très bien pu prendre l'actualité et parler de l'île des sentinelles, sur laquelle il y a ce peuple qui avait assassiné...
Alors, il faut l'expliquer alors, pour les auditeurs, auditrices, oui.
C'était il y a quelques mois de ça, maintenant. On a eu un touriste américain qui a voulu se rendre sur une île en Asie du Sud-Est.
Alors donc, que c'était interdit.
C'est une île qui est interdite, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'État indien. Mais l'État indien sait que dessus, il y a un peuple autochtone qui n'est pas d'accord pour recevoir le moindre tourisme ou même le moindre chercheur, en fait. Hein. Ils tirent sur les avions et tout ce qui vient les observer. Et donc, un missionnaire américain a voulu s'y rendre pour faire son prêche. Et il a fait fi des autorités indiennes. Il n'a demandé aucune autorisation. Il s'est simplement rendu sur place et il s'est fait assassiner. Parce que si cette île s'appelle l'île des Sentinelles, c'est parce que son peuple garde l'île. Et chez eux, c'est pas du tout militaire. Mais on retrouve tous les points communs dont on a parlé chez le militaire, qui lui a une mission qui lui incombe, une mission qui n'est pas pour lui seul, et pour qui est pour plus que lui-même, qui est pour vraiment toute sa société, etc. etc. Et ben là, finalement, avec les Sentinelles, en peuple autochtone, on peut retrouver la même chose à leur échelle, sur leur île. Et... du coup, je trouve ça très intéressant quand on regarde des choses aussi opposées, aussi différentes que l'amour et la haine, par exemple, de regarder aussi que parfois un même signe peut paraître de manière différente et ne pas avoir les mêmes apparences, alors qu'on utilise bien la même chose pour le désigner. Et de la même manière, du coup, la haine ne sera pas la même. Si on veut rentrer en détail sur la haine, on va pouvoir en décrire 1000 ou 10 000.
Zombie, concernant les mécanismes, tu as observé des mécanismes de haine ?
Les mécanismes, ils sont bien rodés quand même. Hein. Si j'ai voulu faire ce texte, c'est parce que c'est pas non plus un hasard. En ce moment, il y a une commémoration des 25 ans des massacres au Rwanda. Et ça s'est passé en Afrique, ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé en Europe. Ça peut se passer encore. Et les mécanismes sont toujours les mêmes. Ça commence par le langage, par le discours. Au Rwanda, c'était Radio Mille Collines. Après, c'en est d'autres. On a aujourd'hui les réseaux sociaux. On peut se demander si l'intelligence artificielle n'est pas inversement proportionnelle à l'intelligence humaine. Ça va tellement vite, on ne sait pas. On ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, peuvent dégénérer dans les simplifications, la bêtise. Et finalement, voilà. La différence entre... Dans la haine, on ne se pose pas de questions. Je pense qu'on s'en pose beaucoup plus dans l'amour. Il y a de très beaux poèmes d'amour. Même pratiquement toute la poésie tourne autour de l'amour. Il n'y a pas de poème de haine. Voilà, je pense que ça n'a... Même si c'est deux absolus, ça ne se nourrit pas à la même source. Du tout. Il y en a un vraiment qui va vers l'animalité. Je crois que c'est vraiment ça, la bestialité, où on ne se pose plus de questions du tout. Même une jouissance bestiale. Alors que l'amour, il y a quand même une élévation. L'amour rejoint quand même l'art. Hein. Voilà. C'est pour ça que ça... Même si c'est vrai qu'on peut passer de l'amour à la haine, on a tous détesté des femmes qu'on a aimées. Mais comme dit un archange, on ne passe pas forcément à l'acte.
Et tu parlais du le langage, pour commencer, la haine, justement. Construire un langage unificateur, la haine, elle commence par là. Tu disais ça dans ton texte.
Oui, pour ceux qui ont lu Orwell, la novlangue, c'est ça. En simplifiant la langue, on simplifie la pensée. Et on arrive très vite à des extrémités réduites, des sortes d'uniformes de pensée et de comportement. Et je pense qu'il y a une vraie jouissance à suivre un chef, Ein Volk, Ein Führer, on connaît, c'est ça.
C'est peut-être pour ça qu'un archange, de ce sentiment brut qu'il avait, il a commencé à tailler dedans, à y mettre, comment ça s'appelle, à le polir au final, pour le polir finalement, jusqu'à le polir, j'ai envie de dire.
C'est ça, comment rendre joli quelque chose qui ne l'est pas forcément.
Et puis je trouve, après, c'est un sentiment qui m'est personnel, mais... J'entends et j'ai beaucoup l'impression que l'amour, on a l'impression qu'on peut le maîtriser. Parce que ça fait appel à des sentiments qui sont nôtres, mais il y a aussi l'autre personne. Et du coup, on n'est pas forcément tout le temps face à soi-même, on est face à un autre. Et il y a des choses qui ne dépendent pas que de nous. Donc cette animalité peut être donnée à l'autre, attribuée à l'autre. Et ça nous permet aussi de se distancier de cet extrême. Enfin, on pense s'en distancier. Et que dans la haine, enfin... Quand on ressent de la haine, on peut être très bien tout seul et face à soi-même, et ça n'induit que nous. Voilà, c'est un petit truc auquel je pensais, et je me disais, il y a toujours la notion de l'autre dans l'amour, alors que la haine, souvent, peut beaucoup surgir aussi du sentiment de solitude.
Mais c'est vrai que si on fait un parallèle, c'est relativement intéressant d'imaginer qu'on a des armées organisées sur une fédération de la haine. Le rejet de l'autre, la destruction de l'autre, même si c'est pour des intérêts comme la nourriture, l'énergie, même si c'est intelligemment bien fondé, c'est quand même organisé autour de la haine, une armée organisée autour de la haine, on fédère des gens qui peuvent avoir une haine individuelle, on leur donne un objet commun à haïr, on dépense de l'argent, on les forme pour ça. Et du coup, j'ai eu l'image exactement du contraire. J'ai imaginé un gouvernement qui unirait des gens pour leur donner un objet d'amour commun et qui les formerait, les armerait pour aller à l'assaut de cet objet d'amour.
Oui. C'est vrai qu'on imagine ça différemment.
Bien sûr.
Dans la caricature, c'est une vraie caricature. Évidemment, on n'est pas censé rire avec ce qui s'est passé en Syrie, le terrorisme, Daesh, etc. Mais quelque part, on se dit au moment où ces petits bonhommes pleins de haine ont quitté l'Europe dans l'idée d'aller tuer, Il aurait fallu les attraper avec... Plutôt que de leur faire attendre les 72 vierges, j'aurais dû leur envoyer plein de jolies femmes à forte poitrine, qu'elles les attrapent, qu'elles les collent très fort sur leur cœur, et qu'elles les laissent pas partir tant qu'ils n'étaient pas passés à autre chose, quoi. Voilà. Et quelque part, ouais, là, peut-être que si on crée une armée de l'amour, bah, peut-être que ça peut être plus fort. Hein.
Ouais. Bien sûr. Je crois que l'idée est peut-être trop moderne, qu'on est encore dans cette animalité dont parlent les zombies. Il y a une culture de la haine. Enfin, je veux dire, il y a un budget qui est consacré à ça dans tous les gouvernements. Je crois que c'est d'ailleurs le budget de la guerre est celui le plus important sur la planète. On voit tous les pays consacrent un budget énorme et malheureusement ne dépensent pas un budget pour celui de l'amour. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, un archange. Les élections européennes arrivent bientôt. Ils vont présenter une liste.
Quoique je viens de douter de ma propre idée, puisqu'on est rarement le premier à y penser. C'est ce qu'Internet nous a fait découvrir. Chaque fois qu'on se pose une question, on l'écrit sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a je sais pas combien de couillons qui se sont posés la même question avant nous. On croyait être le premier de la planète, mais bon. Et en fait, je me disais que paraîtrait-il que certaines grandes entreprises... sont en train de fabriquer une armée de robots. Donc si on pense à l'armée de la haine et si on pense à la guerre destructive, on peut imaginer que les robots qui vont nous fabriquer, ça va être des Terminators. Mais là, avec l'idée que je viens d'avoir, je me dis que s'ils sont vraiment très intelligents, ils vont pas fabriquer des Terminators, ils vont fabriquer des real dolls. Vous voyez ce que c'est, les real dolls?
Non.
Bah, c'est des espèces de pseudo-humains. C'est le développement des poupées gonflables au départ. Et donc c'est des représentations humaines en silicone, qui se rapprochent de la chair et de l'os. Et donc, on a aujourd'hui déjà plein de Japonais qui sont amoureux de leur real doll, qui l'habillent, qui l'emmènent partout. Et évidemment, qui sont en train de lier les real dolls avec l'intelligence artificielle. Puisqu'il y a aussi plein de Japonais, entre autres, qui sont tombés amoureux de leur Tamagotchi et autres logiciels. Donc, si on met les deux ensemble, ce sont des armes redoutables pour l'espèce humaine.
Ouais. Il y a un film comme ça où un homme, me semble, tombe amoureux de l'intelligence artificielle. Je ne sais plus le nom du film, mais c'est une voix un peu comme le principe de Siri avec Apple. Et en fait, il me semble que cet homme va à la conquête, enfin à la recherche de cette voix, en fait, de cette femme qui serait derrière cette voix. Mais en effet, c'est un peu particulier, ça pose question.
Il y a aussi plein de films où dans l'espionnage, on cherche à mettre dans le lit de quelqu'un d'influent une très jolie femme pour lui soutirer des secrets. Donc,
En fait, ça donne raison à Brigitte Fontaine. Quand elle dit que l'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Hein, c'est quand même aussi un fantasme, mais c'est vrai que c'est souvent au nom de l'amour qu'on a commis les pires cruautés.
Oui.
Hein, ceux qui assassinent sont certains d'être dans leur bon droit et on a érigé, sans entrer dans les détails, mais on a érigé souvent l'amour...
Un crime passionnel.
Non, mais en étendard. En étendard. Hein, en quelque chose d'existentiel.
Bien sûr.
Pour éviter de penser à la réalité des choses.
Alors maintenant, c'est Al Pacino.
Je sue. J'ai des gouttes qui coulent sur mon visage. Je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. Je suis là à travailler tant bien que mal pendant que d'autres prennent leurs pieds. Je pense, je pense à ma femme qui doit suer aussi. Je pense à mon estomac vide et je rêve d'être assis. Je penche, je tremble, mais je ne tomberai pas. Il ne faut pas que je tombe. Il ne faut pas que je tombe car sinon j'irai droit dans ma tombe. Alors je reste droit dans mes bottes et j'obéis. Comme les bons soldats qui surveillent au pays, je me rassure en me disant que je sers mon pays. Et le bon vieux gros me hurle « Obéis !» Des gouttes coulent sur mon visage. Je pleure. Quelle douleur de servir une cause que je déplore. Quelle couleur faut-il avoir pour que l'on perçoive mon désespoir? Mon enfant apprend à servir des blancs, pendant que ma femme se fait violer par des blancs. Et que moi, je travaille pour des blancs. Je hais la couleur blanche de ce coton que je récolte. On récolte. On récolte que ce que l'on sème. Mon cœur a semé l'amour et aujourd'hui saigne. Ma peau est noire, basanée, je suis un noir, un bougnoul. Je ne suis pas, mais je dois être ce nègre, ce voleur qui porte la cagoule. J'écris des lettres qui n'arrivent jamais. Pourtant, je ne sais pas écrire et je ne saurai sûrement jamais. Je ne serai jamais celui qu'ils veulent. Mes ancêtres me parlent, me voient et ils m'en veulent. Je me nommerai combattant des droits de l'humain. Je serai là pour que toi, le noir aux grandes narines, tu humes demain. Notre ami Ange est parti au Bénin, voir ses portes sur la plage, synonyme de départ sans retour. Eh, l'ami, le racisme n'est pas bénin. Alors, si t'entends racisme, ferme cette porte et fais demi-tour. Merci.
Donc c'est sur l'esclavage, un texte poignant.
Oui, merci.
Donc dans ce texte, tu as essayé, on voit, de mettre un petit peu différents points de vue aussi, d'essayer de naviguer un petit peu d'une personne à l'autre dans une famille noire, un petit peu de parler d'autres éléments aussi auxquels on est... Enfin, personnellement, je ne suis pas habitué, en fait, dans les textes qui abordent l'esclavage, à entendre parler des familles d'esclaves. Et du coup, ben, tu l'as fait et c'est très bien, c'est original.
C'était important pour moi parce que... Enfin, après, c'est quelque chose dont je suis très loin, que je n'ai jamais vécu et que je pense ne pourrais même pas imaginer, même avec toute la volonté du monde. Je pense que je ne pourrais jamais réussir à imaginer l'horreur que ça doit être, que ça a dû être aussi. Et c'était important pour moi d'essayer de me rendre compte et de me dire, mais on pense à cette personne qui est enchaînée, mais il n'y a pas qu'en portant des chaînes, en fait, qu'on est esclave. Et ces femmes dont le corps ne leur appartient plus, ces enfants qui sont en train mais réellement d'apprendre à servir et sous prétexte que... Ils ont une autre couleur de peau, c'est quelque chose qui, enfin, quelque chose qui me dépasse et j'avais envie de me pencher sur tous ces points de vue-là, en fait, pour essayer de comprendre et de faire ressentir mon émotion.
Peut-être que tu pourrais être contesté dans ce que tu dis aujourd'hui, parce qu'on a vu à plusieurs reprises des Blancs parler pour des Noirs, et qui était contesté par les Noirs parce que, étant blanc, ils n'avaient pas la légitimité de parler pour les Noirs. On a vu, là, il n'y a pas très longtemps, à la Sorbonne, une pièce d'Eschyle qui a été boycottée, un petit peu empêchée, parce que les gens étaient maquillés, donc on les a accusés de blackface. Et ce n'est pas la première fois que j'entends, pas spécialement avec les Noirs, il s'est passé la même chose au Canada avec quelqu'un qui a fait une pièce sur des Indiens, alors qu'ils n'étaient pas indiens. Et leur légitimité a été contestée parce qu'ils n'étaient pas indiens. Mmh. Et ça, c'est une espèce de... Comme si l'art... on pouvait parler que de là où on était. Mmh. Et je trouve que c'est inquiétant.
Oui, bah oui.
Bah. En vrai, ça, c'est quelque chose qui évidemment peut être inquiétant, parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, avec un travail du langage qui vient d'abord travailler les mots, et le racisme a travaillé le langage et les idées pendant longtemps, et aujourd'hui on en garde des traces, même dans des démarches qui se veulent anti-racistes finalement, on retrouve un ADN et une filiation comme ça aux vieilles idées du racisme et de la race différente pour chaque homme. Qui peuvent, par exemple, priver un blanc de la légitimité de faire une pièce
oui.
sur l'esclavage.
Et puis c'est surtout qu'on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Voilà, si on en arrive à faire de l'art juste pour être en accord avec des idées... qui peuvent changer d'ailleurs d'un lieu à l'autre, d'une époque à une autre, c'est plus de l'art, c'est de la propagande.
Oui, voilà. Bon, aujourd'hui, on appelle ça de la promotion publicitaire.
De la communication.
La communication, ça marche très bien, ça. Oui, par rapport à ce que tu dis, au même titre que toi, donc tu n'aurais pas le droit, par exemple, d'évoquer le génocide au Rwanda parce que tu n'es pas rwandais. Ça rejoint tout ça.
C'est bien pour ça que j'en ai pas parlé.
Bien sûr. ce que nous a dit Al Pacino, ça m'a fait penser à une interview que j'avais eue avec Patrick Chamoiseau. C'était l'année dernière. Alors, il n'est pas complètement noir. Il est issu du métissage, mais il vient des Caraïbes. Il m'avait parlé de deux choses. Alors, il y a une chose dont il m'a parlé, puis ça m'a fait penser à une autre chose. Que je connais par ailleurs, les sociétés matrifocales aux Caraïbes, recentrées sur la femme en fait, parce que comme tu le dis, l'homme noir n'avait plus de pouvoir non seulement sur sa femme ni sur ses enfants qui lui étaient pris et qui étaient confiés à son maître blanc, et donc une perte de pouvoir en fait de la place de l'homme au sein de ces sociétés, puisque les femmes noires appartenaient aux hommes blancs et les enfants noirs appartenaient aux hommes blancs. Donc on voit après de génération en génération comment les hommes noirs ont perdu leur place au sein de cette société de par cette culture. Et je pense aussi, alors ça c'est un fait que j'avais lu dans Patrick Chamoiseau dans un de ses livres, où il explique que certains esclaves noirs à l'époque décidaient de tuer leurs enfants. Donc une fois que les femmes accouchaient, l'homme enlevait, s'il le pouvait, hein, si le maître blanc n'était pas encore passé, enlevait l'enfant à sa mère et allait le tuer, parce qu'il savait qu'il aurait un destin d'esclave. C'est le lien à la famille. C'était à une époque, à une période, ça se passait, mais l'histoire, certains pensaient déjà au futur. Ça se termine sur ces portes.
Oui.
J'ai l'impression, est-ce qu'on peut s'en sortir sur ces portes-là dont tu parles au Bénin, vers un départ
alors...
Aujourd'hui encore, on voit, c'est une forme de racisme ce qui s'est passé au Rwanda.
C'est absolument du racisme. Et d'ailleurs, il faut. Enfin, je trouve ça toujours un peu bête d'opposer blanc et noir, puisque ce qu'on a pu voir sous l'Allemagne nazie, c'était des blancs contre des blancs. Circoncis ou pas, mais blanc contre blanc. Et ce qu'on a pu voir au Rwanda, c'est des noirs contre des noirs. Donc la différence, c'est pas la couleur de peau, c'est la taille du nez. Voilà.
C'est des critères, en fait. Pour moi, le racisme, c'est pas qu'une couleur de peau, en fait. C'est
enfin,
un critère.
Réel ou supposé par rapport à la taille du nez aussi. Hein.
Oui, parce que.
Parce que si le nez convient pas, on va voir le zizi.
Non, et puis c'est que si on regarde un petit peu sur les hommes préhistoriques, on se rend compte qu'on a eu, par exemple, dans l'histoire, des tendances à dire tiens, on a remarqué qu'en Afrique, ils avaient telle forme de crâne qui n'était pas retrouvable en Europe, etc. Et puis les découvertes plus récentes, elles, généralement, viennent démonter ces petits clichés-là pour dire ah ben non, en fait, finalement, on a fini par trouver un en Europe qui a la même morphologie à peu près que le gars là-bas en Afrique.
Mais l'idée, c'est simplement, en tout cas, si on parle de la haine et de l'application de la haine, l'idée, c'est de trouver un critère de différenciation, un critère de discrimination. Donc effectivement, on peut appeler ça race si on considère que c'est un critère racial, mais c'est juste un prétexte. Voilà. C'est juste un prétexte de différenciation. En plus, on parle de l'esclavage. Enfin, là, ton texte parle pas de l'esclavage en général, ça parle d'une période bien précise, dans un pays bien précis. Et effectivement, à cette époque-là, il y a une opposition entre des esclaves noirs et des esclaves blancs. Mais à l'origine, le statut de l'esclave et la couleur de l'esclave, c'est pas du tout celle d'un Africain et la couleur noire. Hein, esclave, ça vient de slave, esclave. Hein, et ça remonte bien avant au statut de l'Antiquité. On a ici quelqu'un qui porte le prénom d'un ancien esclave, justement,
exactement,
célèbre. Bah, je te laisse peut-être en parler.
Moi, c'est le thé, donc. Et donc, thé vient de Théo, que généralement, on relie à Dieu. Théos en grec. Mais en fait, moi, c'est Théo en grec aussi. Et c'est pas Théos du tout. Ça s'écrit A-U. Donc, il n'y a pas de O. Ça règle le problème de divinité. Et en fait, c'était un esclave. Hein, un esclave qui s'est fait affranchir en formant les enfants de ses maîtres. Parce que l'esclavage sous l'Empire romain était, sous l'Empire grec aussi d'ailleurs, c'était un statut social et non pas une condition qu'on allait garder toute sa vie comme ça l'est devenu sur des périodes plus modernes.
Souvent des prisonniers de guerre, d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Souvent des prisonniers de guerre. Et puis merci un archange d'avoir fait cette précision, parce que ça serait donner raison justement aux racistes de dire que l'esclavage ou le racisme serait une question de couleur de peau. C'est ceux qui prétendent justement que la couleur de peau nous différencierait, qui sont racistes, voilà, qui nous séparent du genre humain. Effectivement, merci d'avoir précisé, oui.
Ouais, et puis j'ai toujours cette pensée pour Ray Charles, quand on l'interrogeait... savoir s'il souffrait du fait d'être aveugle. Il disait qu'au moins, il n'était pas noir.
Oui, c'est vrai.
Et je trouve que ça résout vraiment cette question.
Il avait raison.
Voilà, la question, elle se pose que pour les gens qui ont les yeux trop grands pour...
Je ne savais pas qu'il avait dit ça. D'accord.
De la même manière, si vous faites un peu de photos, vous savez très bien que du blanc au noir, il n'y a que des nuances en passant par le gris. Et ce ne sont pas des couleurs.
Donc cette notion de noir, voilà... C'est quelque chose qui est relié à une époque bien particulière. Et du coup, ce que j'ai adoré dans ton texte, c'est parce que c'est un peu ce que je fais moi aussi dans les miens, donc ça me touche, c'est que tu parles au nom de quelqu'un qui a un endroit précis. Voilà, c'est pas juste une généralité, c'est pas juste un texte qui vient dire ce qu'on devrait penser ou ce qu'on devrait croire, mais c'est le ressenti d'une personne particulière dans un espace et un temps donné. Voilà, et à travers ses sentiments, à travers son ressenti, on perçoit quelque chose d'une époque, d'une période.
Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au slam de thé sur l'actu mondiale.
Exactement. Je voulais juste mater l'actu, et c'est parti en 7 dessus. Marketing garé sur parking, monde règne par dictature sans dictature et mégalo qui fait le king. Comme chez les Thaïs avec Kim, je fais des dés. Mais je pourrais tout autant pointer les Yankees, ceux qui assaillent Yéménites, étalent leurs viscères, ceux qui achètent produits français par l'État viscère. État français sans éthique, cynique, automatique, goutte de sang inexpliquée. Homme d'élite, en bonne santé. État d'ébriété, godet renversé, pipeline percé. Foules en rang sans inanité, survie des peuples combativité. Carjacking de gras de papier, le monde saigne, saucique, tectonique, magnitude 10 sur l'échelle des richesses. Comme Népalais, tremblant sous cime d'Himalaya ultime, automatique, financement de palais, les mendiants se bannissent. Si tu veux faire que tru, mater l'actu, tu risques de partir en 7 sus. Pishing harcèle plus qu'Ali sur le ring, le ring a deux faces, tous les gouvernent. Miroir sans teint sur 100, tes actus sur Bing, Bing. Marivaudage de coq à coq, j'en ai des cernes. CERN, labo antimatière. TERN, l'homme est son propre terme. Terminus, minuscule, outil à tuer. Tuer, spécialité tactique des hommes, corrida de Palerme. Terreur des balles, dormeur du val. Tectonique des plaques, fan, des fleurs du mal. Fan les fleurs, plastique des mers, des pannes et des heurts. Homme édipien devant terre, père. Père, ses repères, plus laid, plus méchant, plus immonde. Inonde le monde, mais créant. Dans un bâillement, avalerait le monde. Printemps. Je vois Alger, fier et forte et bouté, flic à tirer, mais manifestant, ouvre la porte. Intérieur de l'expérience de Schrödinger, les murs ensanglantés, le sol... Seul sur terre tremble de peur, peur de l'homme prédateur. C'est Satan's amateur. Mais cessez flambeur, ravivez les lumières du bonheur dans vos cœurs. Merci.
Merci beaucoup. Alors du coup, on va, pour clôturer cette émission, peut-être demander le ressenti par rapport à ce texte de Zombie tu mort. Ton ressenti par rapport au texte de T.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'ascension, ce qui se dit, et aussi les références. C'est vrai que pour moi, l'ennui qui dans un bâillement avalera le monde, c'est quelque chose qui me paraît vertigineux.
C'est une citation, tout simplement, de Charles Baudelaire dans voilà. Les fleurs du mal.
C'est ça.
C'est bien vu, mais c'est pas de moi. C'est mis entre guillemets dans le texte.
Non, mais ça me paraît tellement
c'est exploité comme ça, ouais.
Tellement d'actualité.
Oui.
Complètement.
Un archange, quelque chose à dire par rapport à ce texte, peut-être.
Il y a plein de références à l'actualité qui sont hyper rapides. Là, il vient de passer sur une info de pipeline qui a explosé en France.
Oui, c'est ça.
Très rapidement. Enfin, c'est riche ton texte. C'est C'est difficile de choper toutes les références.
Ouais, j'aime bien cacher les choses, rester un petit peu flou, et puis laisser l'auditeur ou le lecteur piocher ce qu'il a envie de piocher dans le texte. S'il a envie de prendre que les sonorités, il prend que les sonorités. S'il veut prendre les références, il prend les références. Et j'essaie d'en mettre un petit peu pour tout le monde, comme ça. D'où l'argot, d'où les références grandes et littéraires un peu grandiloquentes.
Merci à nos trois invités, un archange, Zombie Tumor, d'être venus à cette émission. Merci à Daniel Begdad d'avoir organisé cette émission aussi. Et puis, on se retrouve le mercredi 24 avril à la Java Pop pour la session slam orléanaise. Et merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au revoir.
Merci Al Pacino. Bon, je dis un petit mot quand même sur le texte de T. Alors peut-être oui qu'on n'aura pas saisi toutes les références, mais on nous sommes liés parce qu'on est des humains, on n'a pas trop le choix, on est enfermés sur cette terre, on n'est jamais loin les uns des autres. On est liés par cet inconscient collectif, cet imaginaire collectif, et puis entre nous qui parlons la langue française par les mots, voilà, qui résonnent en chacun de nous à leur manière.
Bien sûr.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'était le Bondi Blog Centre Café des slameurs face à l'actu.
www.bondibloccentre.fr
Bondi Blog Café.
Bondi Blog Centre.
Bondi Blog Café.